Déborah, quatrième jour du mois, la cinquième Mida, le Hezik la Adapo. Chers amis, Hachem Alechem Tiahio, le Richem Tomim Shanim Niaimim, Ezeinu Beshem Adonai, Osei Shamaim Baret. Le Hezik la Adapo, il ne garde pas sa colère pour toujours. Zumida Heret, c'est une autre qualité. Shafilu Adam Marzik Behet. Et quand bien même l'homme persiste dans la faute, en Akadosh Baruch Hu mahzik af. Akadosh Baruch Hu ne persiste pas dans la colère. Ve mahzik, et si quand bien même il persiste, Hashem persiste dans la colère, tient la colère, l'olad, il ne le fait pas pour toujours. Et là, il va tel ka'aso afilu shelo yashuv Adam. Mais Akadosh Baruch Hu annule sa colère, il apaise, même si lorsque l'homme ne se repent pas. Comme nous trouvons cela à l'époque de Yéroboam ben Yoach. Sheayu veayu Israël, Sheherzir Akadosh Baruch Hu gevul Israël. Akadosh Baruch Hu, lors de cette période, bien que Am Israël ne se comportait pas correctement, il leur a donné la victoire et ils ont récupéré des territoires perdus. Vehem, ayu avdei agalim, et eux, les Bnei Israël, adoraient les veaux, les fameux deux veaux qu'avait installé Yéroboam ben Nevat à son époque. Vehem alehem veloshavu, il a eu pitié d'eux, bien qu'ils ne se sont pas amendés et repentis. Pourquoi donc? Bijil midazu, uniquement pour cette mida. Shelo ehezik la adapo, pour cette qualité, celle de ne pas maintenir sa colère pour toujours. Adraba mahali shapo, bien au contraire, il affaiblit sa colère. Elle perd de sa force. Imiyot shadain ahed kayam, bien que le péché subsiste toujours, soit toujours là. Et non, Ma'anish, il ne punit pas. Et là, Metsapé, Umrahem, Olaï, Achouvou. Mais il espère, il guette. Et il attend, peut-être vont-ils se repentir. Il est Merahem sur eux, il leur dispense sa miséricorde. Peut-être vont-ils se repentir. Ve'aïnou, c'est ça le sens du verset. Lo la Netzah yariv. Velo leolamito, comme dit le verset, car il ne récrimine pas sans fin et il ne garde pas rancune éternellement. Tehilim kuf gimel pasuk tet. Et là, Akadosh Baruch Hu mitnaeg berakut ou bekashut. Toutefois, Akadosh Baruch Hu se comporte à la fois avec tendresse et avec sévérité. Akol letovat Israël, tout cela pour le bien d'Israël. Et il convient à l'homme d'adopter cette qualité et de la faire sienne dans ses rapports avec son prochain. Bien que, quoi qu'il aurait le droit de réprimander sévèrement son semblable ou de corriger ses propres enfants. Et eux, ils supporteront la correction. L'homme hypnésie yarbe betocharto, pas pour autant, il ne devra persister dans la réprimande, s'attarder dans sa colère. Velo le hazik ka'aso, bien qu'il soit fortement irrité, il l'annulera. Afilu sheka'as, ela yevatelenu. Il ne conservera pas son ressentiment pour longtemps. Lo hazik la adapo. Gam, im af ou hu, amutar la adam, combien même cela sera permis à l'homme? Ce serait permis. Ke'en chez Pirchou, comme on dit nos maîtres sur le verset. Ki tire hamor son acha, robet tahat masao. Le pasuk dit, si tu vois l'âne de ton ennemi, celui que tu détestes, qui est succombe à la charge qui est sur lui. Garde-toi de l'abandonner, de l'ignorer. Fais attention. Tu dois aller l'aider. C'est-à-dire, tu ne dois pas ignorer, tu dois aller au contraire, l'aider à décharger. Nos maîtres expliquent. De quelle haine s'agit-il? Ça veut dire quoi? Tu as la haine. C'est absurde d'avoir une haine sur quelqu'un. Alors nous disent les maîtres, Maya Sinas, Otira, Oto, Vera, Vera. Ils expliquent. Il a vu à cet homme-là, le propriétaire de l'âne, transgresser. Et il a fait une Avera. Mais il n'y a pas de témoin. Vous Yahid, Venoyachol Yahid. Il ne peut pas aller témoigner contre lui. Il le déteste parce qu'il a fait une avéra. Bien, malgré cela, la Torah a dit, va et aide-le. Tu dois l'assister, porter avec lui la charge. Shevok yad delibecha. Laisse tomber ce que tu as en ton cœur. Et la mitzvah, les karev otobéhava. Tu enlèves ce que tu as dans ton cœur, cette haine-là que tu as. Enlève-la. Et décharge-toi toi-même de cette haine qu'il y a en toi, et va l'aider. Et la mitzvah, les carrément, il y a une mitzvah de le rapprocher. Azov ta azov imo. Ou la yo'il ba derirze. Peut-être que de cette manière-là, ça servira à quelque chose, il va pouvoir se rapprocher. Ve'inu mamash midazu. Et c'est exactement la mida, lo ehezik la adapo. C'est exactement, véritablement, cette qualité de laquelle il est dit, il ne garde pas sa colère pour toujours. Explication. Que signifie il ne garde pas la colère? Il convient tout d'abord d'expliquer la notion de colère quand elle s'applique à Dieu. La colère est l'expression d'une atteinte profonde, d'une blessure. L'homme qui subit un affront, une humiliation, est en colère parce qu'il a été blessé dans son être. Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu réagirait-il comme celui qui est blessé par l'offense? Est-il atteint par nos outrages? Se vexe-t-il de nos insultes? Bien sûr que non. Le juge suprême, ne se met pas en colère. Le juge d'un tribunal, quand il examine un dossier d'un délinquant, il n'est pas touché lui-même par la transgression, il ne se met pas en colère. Quand le terme « colère » est employé, cela signifie qu'il y a une identification entre le fauteur et le juge. Hachem est comme notre père, sur qui rejaillit le mauvais comportement de son fils, c'est-à-dire nous. De par sa nature, l'homme a besoin d'une autorité qui le dirige. Il réclame un joug à porter, afin de ne pas se sentir perdu. Cette autorité exige alors que la justice se fasse. Ces principes sont indissociables de la nature humaine. Dans toute société humaine, ceux qui s'affranchissent des lois et des règles sont ceux qui se sentent abandonnés par la société. Ceux que l'on a laissés sur le bas-côté de la route, à l'instar du serpent que Hachem rejette et éloigne de lui. Il ne s'en préoccupera plus. Il est livré à lui-même. Pour le reste des hommes, l'application des lois et de la justice est une nécessité vitale. Le mot colère exprime cette justice qui s'applique sur les hommes parce qu'ils sont importants aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. La punition n'est pas une finalité en soi. Elle n'est que le moyen de remettre celui qui s'est égaré sur la grande route. Le Seigneur Tout-Puissant est un Dieu d'amour et de bonté. Il n'est pas un être qui désire la souffrance et la destruction, chas v'shalom. Ce sont des idées extérieures à la Torah. Si la sanction ne produit pas d'effet recherché, alors elle n'est pas utilisée par HaKadosh Baruch Hu. Il abandonne ce moyen et utilise celui qui est à l'opposé, si celui-ci peut porter ses fruits. Ce principe est celui de la direction de la justice, par lequel la providence, la Shekhina, Akadosh Baruch Hu conduit son monde. Han Agat Hamishpat, la balance de la justice, le plateau de droit et la qualité d'amour et de bonté. Celui de gauche est l'amida de la rigueur, la loi stricte qui doit s'appliquer au monde. Et le fléau de la balance est le bâton de Moshe, Maté, qui a le sens de faire basculer d'un côté ou de l'autre. Il ne reste pas au milieu, car alors rien ne se passe. Même si la sanction s'abat sur le monde, elle n'est que temporaire, elle n'est pas définitive. La colère de Dieu va en s'estompant. Elle n'est que réparatrice. Elle allège le poids des transgressions pour que le monde puisse continuer à vivre et à subsister. Donc, il apporte l'exemple de Jéroboam ben Joash. Le royaume de Salomon, Shlomo HaMelech, à sa mort, a été divisé en deux. Le royaume d'Israël, d'une part, et celui de Yehuda, d'autre part. Jéroboam ben Nebat est choisi par le prophète Ahia Shiloni comme roi d'Israël. Donc, il va diriger un royaume de 10 tribus. L'année qui suit la Shemitah, le peuple se réunit pendant la fête de Sukkot au temple pour écouter la lecture de la Torah que fait le roi. C'est ce que nous appelons Mitzvat Hakel. C'est le roi descendant de David qui lit la Torah. Il est le seul à être assis dans l'enceinte du temple. Comme dit la Mishnah, En Yeshiva Ba'azara, et là, les Malché Bet David Bilvad. Donc Jéroboam, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il est pris d'une réelle crainte. Il se dit, si je me présente à cette cérémonie avec mon peuple, que vont dire les gens? Donc ils vont trouver Rehavam, le fils de Shlomo, assis et qui lit la Torah. Jéroboam ben Nevat, qui est debout à côté de lui. Ils vont dire, celui-ci est le serviteur de celui-là. Donc il a pensé qu'il risquerait de le mettre à mort, de le condamner. À cause de cela, il fermera les frontières et empêchera le peuple de se rendre au temple. Il placera en remplacement 2 veaux d'or, l'un à Dan et l'autre à Bethel, pour que le peuple puisse se retrouver autour d'un dieu, entre guillemets. C'est à partir de là que le royaume d'Israël, et plus tard l'ensemble du peuple, s'adonnera à l'idolâtrie. À l'époque de Jéroboam ben Joash, les pratiques idolâtres d'Israël n'avaient pas cessé. Bien au contraire, et malgré tout, Jéroboam II entreprend une guerre pour récupérer les territoires perdus par le roi Jého, vaincu par le roi d'Aram. Les prophètes de cette époque sont Osée, Hoshéa et Amos. Les versets disent dans le livre des rois, livre 2, chapitre 14, versets 25 à 29. Jéroboam, fils de Joash, devint roi d'Israël à Samarie, où il régna 41 ans. Il fit le mal aux yeux de l'Éternel et n'évita aucun des péchés de Jéroboam ben Nevat. Il avait égaré Israël. Il rétablit la frontière d'Israël depuis les environs de Hamath jusqu'à la mer de la plaine, accomplissant la parole de l'Éternel, Dieu d'Israël, énoncée par l'organe de son serviteur, Yona ben Amittai, le prophète d'Ori, originaire de Gath Hepher. Akadosh Baruch Hu avait, en effet, vu la misère extrêmement cruelle d'Israël, son manque de ressources, grandes ou petites, sans personne pour lui prêter assistance. Ne voulons pas effacer le nom d'Israël de dessous les cieux. Et l'Éternel leur porta secours par la main de Jéroboam ben Joash. Le reste des actes de Jéroboam, tous les faits accomplis par lui, les victoires qu'il remporta et qui lui permirent de restituer à Israël Damas et Hamath, jadis possession de Yehuda, tout cela est consigné dans le livre des annales des rois d'Israël. Jéroboam s'endormit avec ses aïeux, les rois d'Israël, et son fils Zacharia lui succéda sur le trône. Donc nous voyons que Jéroboam ben Joash, malgré tout, a réussi à rétablir le territoire d'Israël, il a apporté la prospérité, etc. Pour cette qualité, Hachem a fait cela. Sa colère, il ne maintient pas sa colère pour toujours. Comment justifier la miséricorde pour ceux qui sont traits et infidèles à la Torah et aux mitzvot? Pourquoi Hachem gratifie une telle génération de cet acte de grâce? Cela ne risquerait-il pas de conforter les hommes dans les choix détestables qui sont les leurs? On voit que je fais le mal et je réussis. Le roi Ahab, à son époque, interpelle Eliyahu Hanavi et lui fait remarquer que les malédictions prononcées par Yehoshua à l'encontre de celui qui oserait reconstruire la ville de Jéricho se sont toutes réalisées dans la personne de Hiel, qui perdit tous ses enfants au fur et à mesure de la construction. Celles écrites dans la Torah par Moshe ne se sont pas réalisées. En effet, dans le deuxième paragraphe du schéma, il est dit: si vous prend le désir de servir d'Avodah Zarah, les dieux étrangers, le ciel se fermera, la pluie ne tombera plus et la terre ne donnera plus son fruit. Voilà, lui dit Ahab, que tout Israël s'adonne au culte idolâtre et que la pluie est abondante et que le fruit de la terre foisonne. La réponse est simple et évidente. Les malédictions citées dans la Torah n'expriment que la volonté d'Hachem. Il peut, selon son désir, dispenser la bonté en ne tenant pas compte des dérives de son peuple. Le jugement de Dieu est d'une telle complexité qu'il prend en compte une multitude de paramètres qui dépassent l'entendement humain. Ce que les hommes doivent en déduire, c'est que la bonté et la miséricorde divine est infinie. L'amour de Dieu pour ses enfants est immense et incommensurable. Malheureusement, les hommes prennent l'amour pour la faiblesse et ils réclament la sanction pour eux et pour les autres, comme le fit Ahab. Et à cause de cela, Eliaonavi a décrété 3 ans de famine. Toutefois, Akadosh Baruch Hu se comporte à la fois avec tendresse et sévérité. Tout ça pour le bien d'Israël. Les jugements de Dieu ne sont pas l'expression de la vengeance, mais la miséricorde et purification pour les âmes, pour les personnes. Quels moyens seront utiles pour amener le pécheur dans le droit chemin? La seule finalité qui dirige tous les jugements de ce monde est le bien d'Israël, comme il est dit pour Israël, qui sont appelés Réchit. Bishvil, Bereshit, Bara, Elohim, et Tachan, et Tares. Bishvil, Israël, Shinikreo, Réchit. Cette qualité devrait être adoptée par les hommes. Ces hommes qui devraient se comporter comme tels, en adultes et non en enfants. Les rapports humains seraient alors d'une toute autre nature. La force est celle de celui qui supporte le mal et renvoie le bien. Les hommes doivent cesser de vivre avec la règle de mesure ou la bascule qui pèse et toise tous les actes de leurs semblables avec une terrible rigueur sans rien omettre. Parfois, on aurait le bon droit pour nous, mais cela ne nous donne pas carte blanche pour réprimander et corriger sans limite. La correction et les reproches sont nécessaires pour la réparation des fautes. Nos maîtres disent, toujours, il faut repousser par la gauche, small doha, et il faut rapprocher par la droite, viyamin mekarevet. La sanction, la correction, la réprimande doivent être exprimées par la gauche, qui est limitée dans ses possibilités, pour bien en souligner les limites. Toutefois, l'amour doit être exprimé par la droite, qui illustre la notion d'infini. Ceci est une grande leçon de pédagogie. La Gemara demande, serait-il autorisé d'haïr son prochain? N'est-il pas dit, tu ne haïras pas ton frère en ton cœur? Le seul cas qui est trouvé est celui de la transgression que le Rav cite. Il est à noter que tous les autres cas sont interdits, même si la personne nous a fait du mal. Cela reste un interdit. Généralement, la haine est le sentiment justifié par une blessure, une atteinte profonde. Ici, il ne s'agit pas de cela. Comment ressentir dans sa chair, dans son cœur, cette atteinte, cet outrage ou cette offense, ce crime de lèse-majesté que commet le pécheur? Si tu ressens l'offense de la transgression comme une blessure profonde de ton être, alors tu as le droit de haïr celui qui pêche. Comme dit le psalmiste, à coup sûr, allô, mais ça n'arrache, Mesna, à coup sûr, je déteste ceux qui te haïssent. J'ai en horreur ceux qui se dressent contre toi. De nos jours, même avec les plus grands mécréants, il faut agir avec amour et affection, car ils sont ce que nous appelons les enfants égarés, tinok shenishba. Le Hassid Lutzato dit que ce combat que l'on doit mener contre les méchants doit se faire uniquement afin que la gloire du Seigneur Tout-Puissant s'en trouve grandie. Et s'il peut l'obtenir par l'amour et la fraternité, c'est évidemment préférable. Mais néanmoins, la Torah nous dit à ce sujet, au sujet de l'âme de l'ennemi, « Azov, azov, immo », littéralement, « Abandonne, tu abandonneras avec lui », qui est traduit par « Garde-toi de l'abandonner, aide-le au contraire ». Abandonne, chasse de ton cœur ce sentiment de haine et aide-le. Ceci est un commandement positif qu'il convient à chacun d'appliquer. En dégageant vers lui une énergie positive, pleine d'amour et de bonté, cet individu en sera transformé, métamorphosé totalement. Il abandonnera alors ses attitudes et les habitudes négatives pour en adopter de bien meilleures. Il semble que cela soit le sens profond de cette mitzvah que le Rav nous dévoile ici. Fin de la 5e Midah. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve'amen.